Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde. Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Jusqu'à 14h, on va aller rencontrer du monde sur la planète, écouter comment on vit ailleurs. Ailleurs, en Suède, qui a pris des mesures de restriction mais n'a jamais confiné, on va visiter une sorte de tour de Babel, une auberge de jeunesse où les jeunes du monde entier viennent se libérer des contraintes.
Le premier jour où je suis arrivé, je me suis promené dans les rues de la ville et je me suis mis à pleurer. Je pleurais parce que je n'arrivais pas à croire qu'il existe un tel lieu où les gens étaient encore libres.
Direction aussi la Sicile, partiellement reconfinée. On se mettra dans les pas d'habitants de Palerme qui en profitent pour redécouvrir les chemins de rando autour de leur ville.
Avec les restrictions, on ne peut pas sortir soit de la ville, soit de la région. Du coup, j'en profite pour découvrir des endroits inconnus et surtout pour être au milieu de la nature.
On est avec un de nos amis qui a 50 ans et qui vit à Palerme depuis 40 ans. Et il ne le connaissait pas. Et moi, je vis à Palerme depuis bientôt 20 ans et je n'en avais jamais entendu parler.
Autre vadrouille à l'occasion de la semaine de la francophonie. En Louisiane, état du sud des États-Unis, des jeunes redécouvrent la langue française dans ce qu'ils appellent des écoles d'immersion.
On fait tous les sujets sauf anglais, en français. On étudie l'histoire de la Louisiane et j'aime ça beaucoup.
Sur Internet, ces jeunes peuvent même regarder Télé Louisiane qui pratique un français un peu particulier, vous l'entendrez. Et puis vous entendrez aussi les Argentines très mobilisées contre un fléau que l'État échoue à enrayer, celui des féminicides.
Je ne me sens pas protégée par l'État. J'ai dû apprendre à me protéger toute seule, à sortir dans la rue en étant prête mentalement, à courir, à me battre, à cracher, à mordre, à faire n'importe quoi pour me défendre.
Et le problème est immense. Hein. L'an dernier, une femme a été tuée en moyenne toutes les 38 heures en Argentine. Nicolas Caro nous parlera du dernier roman de l'haïtien Mackenzie Orcel. Et puis avant de se quitter, Joseph Chovanec viendra nous vanter les mérites des zones blanches, ces endroits où l'on ne capte rien. L'aventure, quoi. Les carnets sont ouverts et on prend la direction de Stockholm. On était déjà allé en Suède il y a 4 mois. Dans les carnets du monde, on avait essayé de décortiquer ce modèle unique en Europe, le seul qui n'ait jamais confiné sa population. Toute la doctrine suédoise repose, vous vous souvenez, sur la responsabilité individuelle en faisant des recommandations. La principale, c'est la distanciation physique que les Suédois respectent à la lettre. Mais très peu de restrictions. Les bars, les restaurants, les salles de sport sont encore ouverts. Le port du masque n'est recommandé que dans les transports en commun aux heures de pointe. Les chiffres montrent qu'on est loin du miracle suédois que certains vantent. On va y revenir. Mais on a eu envie de retourner en Suède, observer ce qui se passe là-bas, un an après le premier confinement en France. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Sophie.
Vous rentrez de Stockholm où la singularité de la situation vous a frappé hein, tout de suite en arrivant.
Oui, parce que Stockholm, c'est seulement à 2 heures de vol de Paris et la différence est vraiment spectaculaire. On a l'impression de vivre totalement hors du temps, au-delà des restrictions très faibles, vous l'avez dit. Ce qui frappe surtout quand vous vous baladez, c'est que très très peu de Suédois portent le masque. Ce sont surtout les personnes âgées qui ont pris l'habitude de le porter et encore qu'une petite partie d'entre elles. Mais c'est en fait assez rare de croiser des gens masqués, même à l'intérieur des espaces clos, magasins, bars ou restaurants. Et cette exception européenne, forcément, attire ici plein d'étrangers.
Alors justement, vous vous êtes rendu dans une auberge de jeunesse en plein cœur de Stockholm, où de très nombreux jeunes viennent exprès pour échapper aux restrictions en vigueur dans leur pays. On écoute votre reportage, on se retrouve juste après.
Des patins à glace en libre-service dans l'entrée, des jeux de société sur toutes les tables et de grosses enceintes qui crachent des chansons contestataires des années 70. Ici, personne ne porte de masque, le temps semble s'être figé avant la pandémie. Après sa balade matinale dans les rues de Stockholm, un habitué des lieux nous accueille.
Salut, moi c'est Felipe et je me suis échappé d'Italie parce qu'avec toutes les restrictions là-bas, ça devenait trop pesant.
En novembre dernier, perdu dans les restrictions en vigueur dans les différentes régions italiennes, cet artiste peintre de 29 ans a choisi de prendre un aller simple pour Stockholm.
Le premier jour où je suis arrivé, je me suis promené dans les rues de la ville et je me suis mis à pleurer. Je pleurais parce que je n'arrivais pas à croire qu'il existe un tel lieu où les gens étaient encore libres. Et après plusieurs semaines passées ici, J'ai retrouvé une façon de penser normale. Et surtout, je ne pensais plus à l'épidémie.
Dans cette auberge, ils sont une cinquantaine. Des jeunes Sud-Américains, beaucoup d'Européens, des Français aussi, comme Thomas, étudiant en licence d'anglais. Très sérieux, il suit à distance sur son ordinateur portable ses cours de l'université de la Sorbonne. Il a quitté la région parisienne pour fuir un confinement mental.
On se sent tout à fait ailleurs, dans un autre monde, comme si le virus n'était pas là. Je me sens un peu comme à la maison. Je me sens pas, en danger, au contraire.
Le soir, ils se retrouvent tous pour faire la fête. Iker a 20 ans, il est arrivé le matin même de Bilbao en Espagne sans un sou en poche. Pour rester dans l'auberge, il fait le ménage le matin. Son plaisir à lui, simplement rencontrer des gens.
Au final, les restrictions en Espagne m'ont plus affecté que le virus lui-même. On est à une période de notre vie où le plus important, c'est notre vie sociale. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel à notre âge. C'est aujourd'hui qu'on doit se faire des amis qu'on gardera plus tard.
En les voyant tous complices, Capucine et Sophie, fraîchement débarquées de Paris, sont presque jalouses. Pour elles, Stockholm ne restera qu'une parenthèse d'une semaine.
C'est des gens qui viennent pour une semaine et finalement qui prolongent leur séjour. Et on voit des gens qui sont là depuis 2-3 mois et en fait, ça se comprend tout à fait.
C'est sympa de retrouver un peu la vie qu'on avait avant. Mais ouais, le retour va être dur, remettre le masque et tout ça, ça va être compliqué, mais bon.
Pour garder une trace de ce qu'il nomme les réfugiés du Covid, Felipe peint ses visages. Il anime aussi un espace de discussion sur le réseau social Twitch. Pour lui, c'est beaucoup plus qu'une simple auberge de passage.
Nous représentons quelque chose, c'est pas juste moi, toi, lui et ceux qui voyagent. Non, nous sommes vraiment quelque chose. On a les médias, on a une cause politique, on a la recherche de la liberté, on a un cadre culturel et artistique. C'est comme le début d'un, je sais pas si je peux dire ça, mais d'un nouveau monde.
Le sujet des contaminations est très vite évacué. Il y en aurait eu une dizaine depuis octobre dernier. La direction de l'auberge a mis à disposition une chambre à part avec une cuisine et une salle de bain pour isoler les nouveaux malades. Mais pour ces jeunes, l'essentiel est ailleurs. Ils ont fui leur pays pour retrouver la liberté. Pas question du coup d'y retourner. L'épidémie, disent-ils, y a pris beaucoup trop de place. Stockholm, Victor Dolande, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1, toujours avec vous, Victor. On comprend mieux après la visite de cette auberge de jeunesse ce côté hors du temps que vous évoquiez. Pour autant, il faut nuancer ce modèle suédois. D'abord parce que les voisins de la Suède, qui eux ont pris des mesures restrictives, ont des résultats bien meilleurs.
Oui.
Finalement, les chiffres en Suède ne sont pas bons.
Non, clairement pas bons du tout. Même la première vague a été moins violente que chez nous. Mais la deuxième et la troisième sont très dures. J'ai encore consulté les chiffres ce matin. Le taux d'incidence en Suède, vous savez, c'est le nombre de contaminations pour 100 000 habitants. Il est actuellement de 500. C'est beaucoup plus qu'en France. La pression sur les services hospitaliers est très forte, avec plus de 50% des lits de réanimation occupés seulement par des patients Covid. Et quand on prend les chiffres de la mortalité, avec 13 000 décès pour 10 millions d'habitants, la Suède a enregistré, proportionnellement à sa population, alors un peu moins de morts qu'en France, où on a déjà vécu deux confinements, mais c'est quand même 10 fois plus qu'en Norvège ou en Finlande, des pays voisins où il y a eu plus de restrictions. Alors il y a bien sûr des scientifiques qui réclament plus de mesures restrictives, c'est le cas notamment de Lena Enorm, virologue suédoise et membre du Science Forum Covid-19, un comité de 22 experts très critiques envers la stratégie actuelle. Pour elle, ce qui affaiblit la position de la Suède actuellement, c'est une combinaison de deux facteurs.
Ce qu'on a actuellement, c'est d'une part un gouvernement très faible. Je dirais même un gouvernement passif face à l'épidémie. Et d'un autre côté, l'agence de santé publique. Et on touche du doigt l'aspect le plus important. Ils n'ont jamais accepté les critiques. Leur position n'était pas déraisonnable en janvier 2020. Mais ce qui différencie l'agence de santé publique suédoise des autres agences de santé publique ailleurs, c'est qu'ils refusent d'admettre leurs erreurs et d'accepter des changements dans leur doctrine. C'est la grande différence.
Et à part ce collectif, Victor, est-ce qu'il y a d'autres voix pour critiquer les choix du gouvernement ou est-ce que tout le monde est globalement satisfait ?
En fait, il y a quand même une fierté nationale très forte à avoir choisi cette voie par rapport au reste de l'Europe. Ouais. Et le symbole qui représente parfaitement ce paradoxe, Bah, c'est le masque, justement, comme l'explique la correspondante du Monde en Suède, Anne-Françoise Hiver.
C'est devenu très très compliqué de parler, de remettre en cause la stratégie suédoise. C'est-à-dire que porter le masque, parfois, est venu, vu un peu comme un acte de défiance, parce qu'on nous a tellement longtemps expliqué que le masque n'était pas efficace. Donc quand on a commencé à en parler, à le recommander dans certains cas, bah, les gens ne le portent pas, puisqu'ils continuent à avoir en tête le message qui a été donné depuis le début.
Donc en gros, c'est mal vu de porter le masque.
Bah un peu, oui. Depuis le début, les autorités avaient expliqué qu'il ne fallait pas le porter, que ça signifiait en gros bah, que vous ne respectiez pas bien la distanciation physique. Résultat, je l'ai vécu, quand vous entrez dans une boutique avec le visage couvert, bah, vous avez parfois l'impression qu'on vous regarde un peu de travers. Autre aspect intéressant des tensions qui apparaissent ces derniers temps, la fracture intergénérationnelle. J'ai rencontré beaucoup de personnes âgées qui se sont auto-confinés depuis un an, qui ne voient plus leurs petits-enfants, qui ne font leurs courses qu'une fois par semaine. Et quand ils entendent qu'il y a de grosses fêtes organisées entre jeunes qui entraînent forcément des contaminations, bah ça les énerve beaucoup.
Alors le résultat est assez paradoxal parce que ce modèle suédois est instrumentalisé aujourd'hui à la fois par les pros et par les anti-confinements.
Oui, et ça énerve beaucoup les journalistes qui travaillent en Suède ou les spécialistes de santé publique locaux qui essaient de garder un peu une certaine impartialité. Car la Suède est prise entre deux camps. D'un côté, les pro-confinement, je pense à certains membres du gouvernement ici en France, qui disent « Regardez, la Suède, là-bas, n'ont rien fait, leur mortalité a explosé, c'est n'importe quoi. » Or, c'est quand même plus nuancé que ça. Et de l'autre côté, les anti-confinements, citons par exemple certains cadres du Rassemblement National, qui vantent le modèle suédois en assurant qu'ils sont beaucoup plus libres là-bas, c'est vrai, mais aussi qu'il y a beaucoup moins de contamination que dans les pays voisins. Or, ça, c'est totalement faux. Mais une chose est sûre, la Suède et sa stratégie face à l'épidémie n'ont pas fini de faire parler le reste de l'Europe.
Ouais, il faut reconnaître aussi qu'ils s'en sortent plutôt mieux économiquement. Ouais, leur produit intérieur brut a reculé comme partout, mais trois fois moins vite qu'en France.
Ouais, tout à fait.
Merci beaucoup Victor pour ce coup de projecteur sur ce pays de l'Union européenne qui se distingue depuis le début de l'épidémie. À bientôt.
À bientôt Sophie.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
C'est un peu l'histoire qui se répète à un an d'intervalle. L'Italie qui reconfine peu avant nous en France. C'était lundi dernier chez nos voisins, après qu'ils ont franchi la barre des 100 000 morts. Les nouvelles restrictions touchent les trois quarts du pays et dureront au moins jusqu'à Pâques. On file dans le sud de l'Italie, en Sicile, et plus précisément à Palerme, pour observer une conséquence de ces confinements successifs à laquelle personne n'aurait vraiment pensé. Au gré des zones jaunes, oranges ou rouges qui imposent aux Italiens des restrictions plus ou moins strictes, les activités urbaines se sont drastiquement réduites, pour ne pas dire qu'elles ont presque complètement disparu. Et donc le week-end venu, les palermitains enfilent baskets et vêtements de sport et redécouvrent la nature. Les fans de rando sont de plus en plus nombreux. Reportage de notre correspondante Cécile Debarge.
Pour arriver à la cascade Nakanika, il faut une petite heure de marche depuis le village de Pioppo. Le sentier boueux donne du fil à retordre aux randonneurs du samedi qui doivent traverser ou enjamber le ruisseau passant sans cesse d'une rive à l'autre.
Alors moi j'ai mis mon pied ici, mais ça bouge un peu, hein, donc saute là où je suis. Ici, oui, ici.
Karine marche en tête, pantalon et chaussures de randonnée, t-shirt de sport rose et casquette blanche sur la tête. C'est elle qui a proposé cette excursion.
Depuis que je suis toute petite, je fais des balades en montagne. Mais j'avais perdu cette habitude avant la pandémie parce que je préférais voyager et aller à l'étranger.
Plutôt sportive, adepte de la course à pied, cette palermitaine de 36 ans a ressorti les baskets dès le mois de novembre et le confinement municipal décrété en Sicile, mais cette fois pour randonner.
Avec les restrictions, on ne peut pas sortir soit de la ville, soit de la région. Du coup, j'en profite pour découvrir des endroits inconnus et surtout pour être au milieu de la nature. Vu que la plupart du temps, on est à la maison, à faire du télétravail ou alors on est au bureau.
Première destination, le mont Pellegrino et ses 600 mètres de dénivelé qui surplombent la baie de Palerme. Si la montagne appartient encore au territoire communal, les palermitains lui préfèrent en temps habituel la plage de Mondello et ses eaux turquoises qui se trouvent en contrebas. Mais depuis quelques mois, les petits sentiers de montagne sont souvent pris d'assaut le week-end.
Quand on était en zone orange, qu'on ne pouvait se déplacer qu'à l'intérieur de la ville, c'est arrivé très souvent qu'on soit nombreux. Tout le monde a redécouvert la randonnée et emprunte les mêmes parcours, donc c'est fréquent de trouver d'autres randonneurs, et parfois beaucoup d'entre eux.
Le long du sentier qui amène à la cascade Nakanika, les sept randonneurs palermitains n'ont croisé qu'un couple avec leur fils. À seulement 20 km de Palerme, ce parcours est encore un secret bien gardé.
On est avec un de nos amis qui a 50 ans et qui vit à Palerme depuis 40 ans. Et il ne le connaissait pas. Et moi, je vis à Palerme depuis bientôt 20 ans et je n'en avais jamais entendu parler.
Guglielmo, 35 ans, n'est d'ordinaire pas vraiment un adepte de la randonnée. Sa dernière excursion du genre remonte à 3 ou 4 ans.
Le samedi ou le dimanche, on restait en ville. On allait se promener dans le centre, on allait déjeuner le midi au resto, ou on allait chez des amis, ou bien on allait visiter des musées, des endroits culturels. Toujours en ville.
Après quelques photos devant la cascade, un pique-nique au milieu de la nature et les baskets trempées par les traversées du ruisseau, il est prêt à recommencer dès le week-end suivant.
Zéro risque de contagion. On maintient les distances. On profite aussi du beau temps. Il faut avoir un style de vie plus sain et là-dessus, c'est le seul point positif du Covid.
Et si la pandémie avait permis de mettre sur pause la frénésie des villes ? Pippo, le doyen du groupe d'amis, veut y croire, citant un proverbe sicilien.
Chaque empêchement offre une nouvelle jeunesse parce que chaque limite crée une nouvelle possibilité. Donc peut-être que cette pandémie nous enseigne à avoir plus de respect pour les rapports humains, plus de respect des autres, de la nature. Donc je pense que ça nous a un peu aidés. Ça aurait été mieux sans pandémie, mais faisons de nécessité vertu.
Cette vertu, c'est le plaisir d'une discussion entre amis au moment du pique-nique, celui de respirer sans masque à plein poumon, de prendre le soleil encore timide de la fin d'hiver sicilien. C'est aussi celui de redécouvrir des sensations oubliées, se réjouit Pippo.
C'est un petit lieu de respiration au milieu de la ville qui, comme toutes les grandes villes, ne permet pas de se sentir pleinement régénéré. Au contact des sons de la nature, on entend le bruit de l'eau qui coule, les oiseaux qui chantent, le soleil qui pointe à travers les nuages, c'est vraiment une belle sensation, c'est le retour à la nature.
Sur le chemin du retour, les sept amis profitent d'une halte dans le village pour acheter quelques pains typiques avant de rentrer en ville et se font une promesse, organiser une nouvelle rando avant la zone rouge et un reconfinement total. Cécile Debarge, Europe 1, Palerme.
Et après ce bon bol d'air, on retrouve Cécile depuis Palerme. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Alors, est-ce que ces sept amis ont finalement pu faire une dernière randonnée ?
Par chance, oui. D'abord parce qu'il a fait beau, mais aussi parce que le week-end dernier, la Sicile était en zone jaune, donc ils ont pu sortir de Palerme. Ce week-end, la région est en zone orange, donc la randonnée est autorisée. Seule contrainte, il faudra se rabattre sur le territoire communal et probablement les montagnes aux alentours de Palerme.
Alors, vous nous parlez de zone orange-jaune. Expliquez-nous un peu ces zones, les règles à géométrie variable.
L'approche italienne est très différente de celle de la France, ou du moins de ce que faisait la France jusqu'il y a quelques jours.
Ouais.
Depuis le 6 novembre, et au moins jusque Pâques, l'Italie est divisée en zones, de blanc à rouge, à chaque couleur ses restrictions. 21 paramètres sont pris en compte par le ministère de la Santé. Une région passe en rouge quand elle dépasse les 250 nouvelles contagions pour 100 000 habitants. C'est ce qu'on appelle le taux d'incidence. Autre paramètre, c'est le nombre de lits occupés en soins intensifs. L'Italie a fixé à 30% le seuil critique. Elle estime qu'au-delà, ça pèse trop sur le système sanitaire.
Pour avoir un ordre de grandeur, en France, le taux d'incidence jeudi était de 266 et en Île-de-France de 446. Avec ces chiffres-là, Cécile, en Italie, ce serait donc la zone rouge, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits ?
Le rouge correspond à un confinement total, sans même une heure pour se promener en plein air. Blanc, c'est le Graal, un couvre-feu à 22h, des gestes barrières, mais pour le reste, une vie presque normale avec restaurants, musées, théâtres et cinémas ouverts. Mmh. Entre les deux, on a la zone orange, on ne sort pas de sa ville, la plupart des activités sont fermées. Et puis la zone jaune, les bars et restaurants sont ouverts jusque 18h.
Alors ce sont les images qu'on a pu voir par exemple en janvier, d'Italiens qui prenaient le café en terrasse ou qui mangeaient au restaurant.
Ouais, et c'était sans doute aller un peu vite en besogne. Moi, quand je voyais ça depuis la Sicile, on s'inquiétait un petit peu parce qu'ici, tout était confiné en rouge. Il y a en réalité 20 régions en Italie et selon que l'on habite dans l'une ou l'autre, la situation est très différente depuis le mois de novembre. D'ailleurs, il est interdit depuis plusieurs mois de voyager d'une région à l'autre, sauf raison impérieuse de travail ou de santé. Une exception quand même, ceux qui ont une maison de campagne, et c'est souvent le cas en Italie, peuvent y aller seuls ou en famille.
Est-ce qu'il y a beaucoup de contrôles ?
Dans les aéroports et les gares, c'est quasi systématique. En voiture ou en bus, beaucoup moins. Mais quand une région entre en zone rouge, les dispositifs sont renforcés. Dans le centre-ville de Palerme, par exemple, en janvier, pour faire 800 mètres en centre-ville, j'avais vu un premier barrage de 2 fourgons de police et 8 policiers environ, plus une voiture de police 500 mètres plus loin. Mmh. Dans les petites villes, c'est assez rare. L'arme de dissuasion italienne, ce sont aussi les amendes, qui sont bien plus salées qu'en France, entre 400 et 1000 euros. Wow. Pour la seule journée de mardi, par exemple, le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir réalisé 112 000 contrôles, dont plus de 1 400 amendes.
Voilà, et puis cette semaine, l'Italie a instauré une journée nationale en mémoire des victimes de la Covid-19. Ce sera chaque 18 mars. Il y a un an, le 18 mars 2020, une image avait profondément marqué le pays, et au-delà de l'Italie d'ailleurs. C'est cette colonne de camions militaires qui traversait la ville de Bergame. À leur bord, des cercueils que le cimetière n'arrivait plus à incinérer pour les amener dans d'autres villes et d'autres régions. Merci beaucoup, Cécile. On retiendra ce bol d'air, cette rando à laquelle vous nous avez conviés. À bientôt.
À bientôt.
Les Carnets du Monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
La littérature étrangère, la musique et les séries télé, autant de manières pour des artistes étrangers de nous raconter leur pays, leur monde. C'est la pause culture dans les carnets, avec un livre cette semaine et un auteur, et donc avec Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Cette semaine, vous nous emmenez en Haïti, pas pour suivre la terrible situation dont on a parlé il y a quelques semaines avec l'écrivain Lionel Trouillot. Vous nous emmenez en Haïti avec un roman.
C'est le nouveau Mackenzie Orcel. On en avait parlé ici même de son précédent livre, Maître Minuit. Maître Minuit, c'est le nom d'une divinité vaudou qui marche, un géant dont la tête dépasse des nuages. Il y a encore du vaudou dans ce livre. L'empereur chez Rivage, ça commence par toc, toc, toc.
C'est le narrateur qui frappe à la porte de quelqu'un ?
Eh bien, en fait, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui frappe à la porte du narrateur, mais on ne sait pas qui. Peut-être bien la police, parce que le narrateur a fait quelque chose de très, très grave, en tout cas de très répréhensible. On ne sait pas encore exactement. Le narrateur qui est un reste avec.
Un reste avec. Terrible.
Et oui, moi, je ne connaissais pas, mais vous, un reste avec, ça s'écrit en un seul mot, et ça vient de reste avec en deux mots. Le livre est truffé de mots d'Haïti. Le langage est haïtien. J'ai donc demandé à Mackenzie Orcel de nous donner la définition de reste avec.
Un reste avec, c'est un enfant placé en domesticité chez quelqu'un. C'est un esclave, c'est quelqu'un qui travaille et chez quelqu'un ou pour quelqu'un et qui n'est pas rémunéré. C'est une bête de somme, en quelque sorte. Et malheureusement, c'est encore la réalité en Haïti. Il y a beaucoup d'enfants et qui sont placés en domesticité chez les inconnus. Et c'est le cas de mon personnage, qui est un enfant ramassé. Il s'est fait ramasser comme ça par l'empereur, ce faux chef spirituel, et il va grandir dans ce lacou comme un mouton.
Le lacou, ça je ne connais pas.
moi non plus, voilà. Mais Mackenzie Orcel, oui.
Le lacou, c'est la communauté, c'est l'espace de cette communauté, où vit cette communauté, où évolue cette communauté. C'est là où vivent les initiés, les vaudouisants, et ce lacou est dirigé par un chef qui dicte les règles de vie et qui dit comment on doit faire et qui invite aussi les initiés à se rassembler au péristyle autour du potomitan pour la cérémonie.
Bon, et qu'est-ce qu'il fait le narrateur ? Qui est l'empereur du titre d'ailleurs ?
Le narrateur, il raconte son histoire, il explique pourquoi il se retrouve là. L'empereur, c'est une sorte de chef, sans doute l'un des dictateurs qui a pris le pouvoir en Haïti, réduit le pays à la misère. Mais tout est raconté en images avec le langage d'Haïti et les mots qui dessinent une culture, une révolte aussi, c'est la révolte permanente en Haïti, et une religion, le vaudou. Loin des clichés sur le baron samedi, les zombies, etc., le vaudou, non pas comme folklore, mais comme une philosophie de vie. Mackenzie Orcel.
Le vaudou, disons simplement, c'est le langage de la révolution qui a réunit les esclaves, les opprimés autour d'un objectif commun. Le vaudou aussi, c'est une vision du monde, c'est une philosophie, c'est une façon d'habiter le monde, d'habiter la nature, une philosophie, l'héritage de nos ancêtres africains. Et le vaudou, c'est aussi une religion, avec ses dieux, avec ses insaisissables, avec sa spiritualité, avec tout ce que ça draine comme vision. Des rêves, c'est-à-dire on est dans le vaudou, on est vraiment entre le versant visible et le versant invisible de la vie. C'est-à-dire le concret compte autant que l'irréel ou l'imprévisible.
Voilà, et le personnage attend donc la police en parlant du vaudou.
Du vaudou, de l'empereur, de sa vie et d'Haïti en creux. Il y a une critique évidemment des dirigeants de la politique d'Haïti. Il y a toute l'histoire et toute une réflexion sur Haïti, mais dans un roman très court. C'est une comète et un langage, donc une poésie. C'est comme lire une forme de rêve. mais beau et angoissant à la fois.
Oui, on s'en rend compte en l'écoutant d'ailleurs avec cette belle voix. Ouais. Mackenzie Hursel est bien sûr haïtien.
Eh oui, il vit à Paris maintenant, mais il est né en Haïti, à Port-au-Prince. La plupart de ses livres, pour ne pas dire tous, parlent d'Haïti, mais il m'a confié que le prochain sera une histoire d'amour en France. Je suis curieux de lire ça.
En attendant donc, on peut lire L'Empereur, c'est chez Rivage. Et on vous retrouve dans une demi-heure pour La Voix et Livre. Merci Nicolas.
À tout à l'heure.
Europe 1, les carnets du monde.
Changement de décor et de sujet. Là, tout de suite, on va remonter un peu sur le continent pour se poser en Louisiane. On se met dans l'ambiance avec quelques notes d'un natif de la Nouvelle-Orléans, Monsieur Louis Armstrong.
Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife has back heat, dear, and he keeps it outside. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mackie, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, even, lies a body oozing life.
Vous aurez reconnu Mac the Knife, merci Louis Armstrong. Nous voilà en Louisiane, où la langue française reprend des couleurs. Savez-vous que nous sommes 300 millions de francophones dans le monde ? Aujourd'hui s'achève la semaine de la francophonie. Pas moins de 88 États font partie de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Et donc, en Amérique du Nord, il n'y a pas qu'au Québec qu'on parle français. En Louisiane aussi. Bonjour Aviva Fried.
Bonjour Sophie.
Vous êtes allée en reportage dans cet état du sud des États-Unis où notre langue est pratiquée depuis des siècles. Et après une période un peu difficile, elle trouve de plus en plus d'adeptes. La Louisiane est d'ailleurs officiellement un membre observateur de l'OIF depuis 2018. Une chaîne de télé en français y a même vu le jour.
Oui, alors il s'agit de Télé Louisiane, une chaîne diffusée sur YouTube et créée fin 2018 par deux Louisianais, Will McGraw et Drake LeBlanc, deux amoureux de leur culture qui voulaient donner une plateforme à des artistes, des créateurs ou tout simplement des témoins de cette histoire, de cette culture francophone de Louisiane. C'est un moyen de mettre sur pied ce qu'ils appellent eux-mêmes une économie médiatique francophone pour pouvoir perpétuer l'usage du français en Louisiane, ce qui manquait jusqu'à présent, hein, selon l'un des cofondateurs de Télé Louisiane, Drake LeBlanc.
C'était pas facile d'impliquer la langue française dans ta vie chaque jour. Donc c'était vraiment difficile et maintenant on a Télé Louisiane. Donc, on devient comme une bibliothèque de toutes les ressources, les créatives, les médias qui supportent notre but de la culture francophone ici dans la Louisiane. Donc. Oui.
On entend tout de même un accent anglais assez marqué. Drake LeBlanc n'a pas grandi en parlant le français?
Bien non, justement, c'est un peu l'une des caractéristiques de beaucoup de Louisianais aujourd'hui. Mmh. Ils ne parlaient pas le français chez eux, mais ils y reviennent maintenant. Pour mieux comprendre ce phénomène, on va faire un petit peu d'histoire.
Allez.
En 1682, l'explorateur Cavelier de La Salle prend possession de la Louisiane au nom du roi Louis XIV, d'où le nom Louisiane. Mmh. C'est comme ça que naît la francophonie dans cette partie de l'Amérique. La Nouvelle-Orléans est fondée en 1718 et le territoire fera partie de ce qu'on appelle la Nouvelle-France, qui s'étend depuis le Canada jusqu'au Mississippi sur une bonne partie des États-Unis d'aujourd'hui. C'est très grand, mais c'est très loin. Et comme la France a pas mal de soucis en Europe, elle finit par céder ses territoires américains. La Louisiane devient espagnole en 1762, puis elle redevient française en 1800, avant d'être définitivement vendue aux États-Unis en 1803.
Mais la langue française perdure à ce moment-là.
Oui, malgré ces va-et-vient, les habitants restent très attachés au français. Il a été nourri de l'immigration française venue directement du vieux continent, mais aussi des Acadiens venus du Canada ou des Créoles venus des Antilles.
Ouais.
Quand la Louisiane devient le 18e État des États-Unis en 1812, c'est le seul État où la majorité n'est pas anglophone. Mmh. Et c'est là qu'est le problème, en tout cas pour les États-Unis. Hein. Ils veulent à tout prix que tout le monde parle anglais. Mmh. Et ça passe tout simplement par l'interdiction de l'enseignement en français les écoles de Louisiane, qui sera officialisée dans une loi en 1921. Mmh. Et c'est comme ça que l'usage de la langue disparaît, faisant naître ce qu'on appelle là-bas la génération perdue, ces Louisianais qui ne parlent plus du tout le français. Mmh. C'est donc le cas de la famille du cofondateur de Télé Louisiane, Drake LeBlanc.
Mais lui parle le français pourtant, comment ça se fait?
Alors il y a eu une prise de conscience de ce que la Louisiane était en train de perdre en ne parlant plus français, sa culture, son histoire. Et forcément ça a créé une volonté de renverser la vapeur, de faire renaître le français. Et donc, depuis quelques années, il y a un regain d'intérêt pour notre langue. En gros, au milieu du XXe siècle, il y avait 1 million de francophones en Louisiane, un chiffre tombé à 100 000 dans les années 80.
Wow.
Et aujourd'hui, on serait à peu près à 250 000 francophones. Alors vous voyez l'évolution assez impressionnante, cette chute vertigineuse et cette remontée qui est en cours. Et alors qu'il était interdit, l'enseignement en français a refait son apparition dans des écoles d'immersion. Il y en a 26 en Louisiane qui accueillent environ 5000 élèves de la primaire à la terminale.
Et c'est quoi exactement une école d'immersion ?
Il y a Toshane Delon, un adolescent de 12 ans qui est inscrit dans l'une de ces écoles, nous l'explique.
On fait tous les sujets sauf anglais, en français, alors histoire, sciences, maths, français, c'est tout en français. À l'école, on étudie l'histoire de la Louisiane et j'aime ça beaucoup.
Oui, le français, ça a pas mal d'avantages aussi pour Toshane et sa petite sœur Amara qui a 10 ans et est également élève dans une école d'immersion. Car même si leur père est d'une famille de culture francophone, ils ne parlent pas franchement le français, ce qui permet aux deux préados quelques libertés. Bon, alors, comme leur mère était assise à côté d'eux et qu'elle ne parle qu'anglais, ils sont très gentiment revenus à cette langue pour faire passer leur message.
Parfois, on doit un peu ruser de peur qu'ils comprennent.
Ne révèle pas de secret quand tu leur expliques.
Mais ils comprennent. Alors, c'est jamais une bonne idée de passer au français.
Sauf pour certains mots qu'il ne connaît pas.
C'est parfois bien pratique de parler français. Ils apprennent donc à l'école, mais est-ce que, par exemple, ils regardent aussi les programmes de Télé Louisiane ?
Oui, alors la chaîne crée aussi des programmes éducatifs qui sont montrés dans les écoles et que les élèves peuvent regarder de chez eux. Car l'idée, c'est bien sûr de former les Louisianais dès le plus jeune âge, de les baigner dans cette francophonie pour regagner du terrain, compenser la génération perdue. Et le dernier né de Télé Louisiane, c'est le premier dessin animé en français louisianais. Ça s'appelle « Les aventures de Boudini ». C'est l'histoire d'un magicien et de ses amis et de leurs aventures en Louisiane. Des aventures qui permettent d'apprendre le français et en même temps des valeurs positives lorsque Boudini part à la pêche.
Bonjour Coco. Bonjour Boudini.
Kia, ça c'est un tas de poissons.
Merci chère voisine.
Oui, félicitations. Mais c'est beaucoup plus que la limite, vous autres.
La limite?
Il y a une règle au lac Bijou. Chaque bateau doit se limiter à 6 poissons par jour.
Voilà, un peu d'écologie et adorable accent au passage.
Oui, et le dessin animé a été développé par deux animateurs, Philippe Bilodeau et Marshall Woodworth. Il met en scène le magicien Boudini avec haute forme, costume violet, baguette magique et barbichette. Son amie Colinda, qui est une Louisianaise créole, avec son foulard traditionnel noué sur la tête. Et Coco, un alligator vêtu d'une cape rouge très saillante, ma foi. Des personnages différents et complémentaires. Et les leçons de français ont l'air de fonctionner, à commencer par l'un des animateurs lui-même, Marshall Woodworth, qui a lui aussi subi les conséquences de la génération perdue.
Pour ma part, j'apprends beaucoup de ce dessin animé. Et du côté de ma famille aussi, ils le regardent. Mes tantes commencent à se souvenir d'expressions en français. Pour Noël, elles m'ont écrit une carte de vœux en français. C'est la première fois de ma vie. Je veux que ce français local soit à nouveau aussi répandu qu'il l'était. C'est pour promouvoir la diversité linguistique, avoir plus qu'une seule langue, surtout dans ce pays.
Alors, on l'a entendu dans l'extrait à Viva, le français louisianais est un peu différent du français de France. Quelles sont les caractéristiques ?
C'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre parce que le français louisianais a eu de nombreuses influences différentes. Puis, il a été dominé par l'anglais, donc les accents sont très variés. Mais bon, il y a tout de même quelques similitudes d'un locuteur à l'autre, à commencer par les R qui sont roulés.
Ouais.
Et puis, il y a bien sûr des expressions du vocabulaire typique. Le mot ici se dit icite. Maintenant, c'est aster. Coco l'alligator, on dit en Louisiane que c'est un cocodrille. Dans le bayou, on peut croiser des wawarons, c'est-à-dire des grenouilles. Attention aux piqûres de maringouins, les moustiques, et je ne vous conseille pas de vous promener sous une avalasse, une pluie torrentielle. Alors Sophie, si je vous dis « lâche pas la patate », ça veut dire quoi ?
Ben, je sais pas.
Ça veut dire « tenez bon », ce qui est un peu la devise de la Louisiane, tout comme « laisser les bons temps rouler », autrement dit « profiter de l'instant présent ».
Exactement ce qu'il nous faut en ce moment ici. Laissons les bons temps rouler alors. Et on se quitte en musique avec ces harmonies très louisianaises que vous nous avez envoyées, Aviva. Le groupe s'appelle Lost Bayou Rumblers. Merci beaucoup, Aviva. À bientôt.
Merci, Sophie. Lâchez pas la patate, surtout.
Non, je vais essayer. Merci. À suivre dans les carnets, le combat des Argentines. On les avait beaucoup vues dans la rue pour obtenir le droit d'accéder à l'IVG. Ça, c'est fait. C'est désormais pour lutter contre le fléau des féminicides qu'elles se mobilisent.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
On redescend donc sur le continent américain, direction l'Argentine, pays d'Amérique du Sud régulièrement secoué par les féminicides. L'an dernier, une femme a été tuée en moyenne toutes les 38 heures. Le gouvernement argentin, au pouvoir depuis un an et demi, avait fait de la lutte contre les violences faites aux femmes un enjeu prioritaire. Mais pour l'instant, pas de résultat. Rien ne semble avoir changé. Depuis le début de l'année, une série de meurtres sordides indigne l'opinion publique. Dans ce pays où le féminisme est extrêmement puissant, les Argentines exigent des mesures urgentes de la part de l'État. Elles sont extrêmement mobilisées. Écoutez ce reportage de notre correspondante à Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé.
Des femmes sont allongées sur le sol, immobiles, seulement vêtues de sacs plastiques. À côté d'elles est écrit « Basta » en majuscules sur de grandes pancartes. Cette performance de militantes réalisée lors d'une manifestation contre les féminicides à Buenos Aires illustre bien la colère qui mobilise les Argentines ces dernières semaines. Début février, le meurtre d'Ursula Baicho a choqué le pays. Cette jeune femme de 18 ans a été assassinée de plusieurs coups de couteau. Le principal suspect, son ex, un policier de la province de Buenos Aires. Devant le palais de justice de la capitale argentine, certaines manifestantes tiennent à la main une photo en noir et blanc de la jeune femme. D'autres brandissent des pancartes, comme Pilar Tissani, 30 ans.
Ce sont mes amis qui m'ont fait cette pancarte. Il est écrit « Qui nous protège de la police ?» La réponse, c'est nous-mêmes. Pour moi, la police est une institution néfaste. Je ne me sens pas protégée par l'État. J'ai dû apprendre à me protéger toute seule, à sortir dans la rue en étant prête mentalement, à courir, à me battre, à cracher, à mordre, à faire n'importe quoi pour me défendre. La police ne protège pas les femmes.
À ses côtés, son amie Ludmila Enriquez Aquies. Cette tatoueuse de 31 ans estime que le féminicide d'Ursula Baicho est particulièrement emblématique du climat de violence contre les femmes qui règne en Argentine, et d'autant plus au sein de la police où travaillait l'auteur présumé de ce crime.
On devrait pouvoir compter sur un lieu où dénoncer les violences que l'on subit, même si ces violences viennent de la police elle-même. Si on se penche sur le cas d'Ursula, je crois que l'une des raisons pour lesquelles cette affaire a fait tant de bruit, c'est parce qu'elle avait porté plainte 18 fois contre son ex et qu'il ne s'est jamais rien passé. On sait très bien que porter plainte ne sert à rien, encore moins si la personne violente fait partie de la police. Ses collègues se sont comportés comme des complices. Et lorsque les amis et la famille d'Ursula sont allés manifester, l'unique réponse de la police a été, comme toujours, de réprimer.
Le 8 février, après la découverte du corps sans vie d'Ursula, ses amis s'étaient rassemblés devant le commissariat de Rojas, petite ville de la province de Buenos Aires où elle vivait. Ils ont été violemment dispersés par les forces de l'ordre qui ont tiré des balles en caoutchouc. Une jeune femme a été blessée à l'œil. Les féminicides se multiplient depuis le début de l'année en Argentine. Au moins 39 ont été commis en janvier et février, selon l'organisation féministe Mumala. Ni una menos, pas une de moins, scandent les femmes devant le palais de justice de Buenos Aires. Un slogan emblématique de la nouvelle vague du féminisme argentin qui a démarré en 2015 avec cette même revendication. Mère de trois filles, Perla Doldán se mobilise depuis des années pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles.
C'est un long processus. Pour moi, le travail de l'État, le travail d'éducation, cela ne suffit pas à changer les choses. Tant que la société ne se mobilise pas pour mettre le sujet sur la table. Tant que la société ne met pas la pression sur l'État. Mes filles sont féministes et elles m'ont beaucoup aidée à comprendre certaines choses. Moi, même si j'ai été élevée par une mère très machiste, mon point de vue a évolué sur beaucoup de questions, notamment grâce au dialogue avec mes filles. Grâce aussi au boom du féminisme, le mouvement Pas une de moins nous a fait sortir massivement dans la rue.
Perla, 54 ans, place beaucoup d'espoir dans la mobilisation des nouvelles générations. Au sein des cortèges féministes en Argentine, les lycéennes et étudiantes sont en première ligne. Buenos Aires, Hautevilliers-Moriamé, Europe 1.
Retour en studio et on est en ligne avec Buenos Aires. Bonjour Aude.
Bonjour Sophie.
Vous le disiez dans le reportage, le féminisme explose en Argentine depuis 2015. Pourquoi ce statu quo? Pourquoi rien ne change concernant les violences faites aux femmes?
Eh bien parce que ça prend du temps et surtout dans un contexte comme celui de l'Amérique latine. Écoutez ce qu'en dit Ana Laura Rodriguez Gusta, elle est sociologue et professeure à l'Université nationale de San Martín.
Il faut examiner la situation de la région et ses problèmes. L'Amérique latine est la région du monde où les inégalités sont les plus fortes et celles qui comptent les taux d'homicides les plus élevés. Les féminicides ne peuvent s'expliquer sans prendre en compte ce contexte social et structurel. À cela s'ajoute la pandémie, qui dure depuis un an. L'enfermement a sans aucun doute aggravé les violences faites aux femmes, et ce partout dans le monde.
Alors malgré tout, les choses bougent, surtout depuis 2015 et l'émergence, on en parlait dans le reportage du mouvement Ni Una Menos, pas une de moins. De nombreux combats féministes se sont invités dans les débats publics ces dernières années. Mmh. Le gouvernement au pouvoir depuis fin 2019 a créé le tout premier ministère des droits des femmes, des genres et de la diversité. Mmh. Il a aussi soutenu la légalisation de l'IVG qui a été votée par le Congrès fin décembre.
Ouais, enfin. Et pour revenir à la question plus spécifique des violences faites aux femmes, est-ce que le gouvernement argentin a réagi à cette nouvelle vague de colère qui s'exprime dans la rue ?
Oui, le président péroniste Alberto Fernandez a annoncé la création d'un conseil fédéral pour la lutte contre les féminicides. Son rôle sera de mieux coordonner les actions, échange d'informations entre tous les pouvoirs de l'État. Mmh. Mais ce n'est pas suffisant, selon la sociologue Ana Laura Rodriguez Gusta.
C'est un geste venant de l'État. Le président le définit comme une priorité. C'est mieux que rien. Mais ce qui m'inquiète, c'est que le ministère des droits des femmes est très peu présent sur le terrain, dans les quartiers. Or, pour lutter contre les violences faites aux femmes, ce dont on a besoin, c'est que les institutions soient plus opérationnelles, plus réactives pour bien protéger les femmes. Car le temps est compté avant qu'une femme qui a porté plainte pour violence ne finisse assassinée. Si une femme est allée au commissariat, qu'on a refusé d'enregistrer sa plainte ou qu'on a pris sa plainte sans lui donner un dispositif d'alerte et qu'un féminicide se produit, eh bien c'est qu'il y a des failles dans le système de prise en charge de l'État.
Voilà, des failles dans le système. Et puis, Aude, pour beaucoup de féministes, la lutte contre les violences faites aux femmes passe aussi par l'éducation.
Oui, bien sûr. Et sur le papier, l'Argentine a tous les outils en main. Une loi qui impose l'éducation sexuelle à l'école, une formation obligatoire pour les fonctionnaires. Mais ça reste théorique parce que dans les faits, dans cet immense pays fédéral, les enseignements ne sont pas dispensés partout pareil. Mmh. La loi Micaela, par exemple, du nom d'une jeune femme de 21 ans qui a été tuée en 2017, cette loi prévoit que chaque employé de l'État reçoive une formation sur les questions de genre et sur les violences sexistes et sexuelles. Mais parfois, cette formation dure plusieurs semaines, parfois seulement une après-midi. Les féministes estiment que pour les policiers qui sont ceux qui reçoivent en premier les plaintes des victimes de violences, eh bien la formation devrait être bien plus poussée afin qu'aucune femme ayant tiré la sonnette d'alarme ne se retrouve de nouveau en danger.
Ouais, on entend qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir donc, et malheureusement, c'est aussi le cas dans le monde entier. Merci beaucoup Aude pour ces précisions. À très bientôt.
Merci Sophie, à bientôt.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Mais où se situe l'Autistan ? Réponse, un peu partout, au gré des voyages, des réflexions de Joseph Chovanec. Et il est en ligne avec nous, Joseph, bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Évidemment, vos voyages vous mènent moins loin ces derniers temps, mais même à portée de petits trains et de vélos, vous trouvez à voir et à nous faire voir. Aujourd'hui d'ailleurs, avec en prime les petits oiseaux, vous nous emmenez dans des endroits restés quasi cachés des nouvelles technologies, satellites et autres cartographies numériques.
Oui Sophie, ces derniers temps il est plus que jamais question de digital, de télécommunication, de réunions virtuelles et autres QR codes à scanner. Ça nous paraît désormais faire partie intégrale de la vie humaine, à ceci près qu'il suffit parfois de franchir quelques kilomètres pour être en zone blanche, donc sans réseau. Et de fait, une bonne partie de la planète, y compris en Europe occidentale, est en zone blanche ou quasi blanche. Pour moi, il y a mieux encore que les zones blanches, ce sont celles qui sont blanches pour Google. En d'autres termes, quand sur les cartes de Google, il n'y a rien pour la région où vous êtes.
Ah ça vous plaît, hein, de brouiller les pistes.
Bah, pour vous faire une confidence, quand le petit point bleu de Google est au milieu de nulle part, quand il n'y a pas de réseau, j'ai un grand sourire aux lèvres. Je sais que la vraie vie peut commencer avec ces voyages. À vrai dire, on peut avoir un premier aperçu, certes partiel, de ces zones blanches non loin de chez soi. J'ai remarqué que Google était mauvais pour représenter les sentiers ou petites routes en forêt. J'imagine que leur véhicule de cartographie ne peut y passer, que les images satellites n'aident pas vu que la forêt recouvre les voies de passage. Raison supplémentaire pour rechercher ces chemins de traverse. Comme ils ne sont pas sur les cartes numériques, vous y serez bien tranquille, notamment le dimanche. Quand en plus il n'y a pas de réseau, c'est par radio presque.
Très bon conseil en tout cas en temps de pandémie, pour ne pas tous faire la même balade.
Oh, il y a de la place, Sophie, pour tout le monde. Hein, mais petit à petit, je me constitue une base de données d'exploration personnelle, mais aussi de cartes à l'ancienne. Un cas extrêmement frappant, c'est le massif à cheval entre Belgique et Allemagne, qui s'appelle les Hautes-Fagnes côté belge et l'Eifel côté allemand. Hein, ce sont des lieux de toute beauté naturelle, idéaux pour la détente, le tourisme, mais extrêmement mal cartographiés en ligne. Prévoyez donc une carte à l'ancienne, ou encore mieux, pas de carte du tout. Comptez sur les découvertes.
Ouais, en essayant quand même de rentrer avant la nuit. Hein.
Oh oui, mais il n'y a pas de risque. Hein. Un autre type d'endroit me semble très mal répertorié sur Google, les chemins en région frontalière. Hein. Certes, les grandes voies de type autoroute y sont, mais pour les autres, c'est souvent zone blanche. Même entre France et Belgique, là encore, cette carence est bénéfique pour notre plaisir de la découverte.
Et ce type de zone blanche, vous en avez rencontré aussi ailleurs, j'imagine ?
Oui, hors Europe surtout. Hein. Les as de la technologie sont encore plus défaillants. Je me souviendrai toute ma vie des railleries gentilles d'un ami soudanais. J'étais tout fier d'avoir pour la première fois de ma vie une tablette avec les cartes de Google. Elles se sont avérées fort mauvaises. Et mon ami au volant de la voiture avait accès à une bien meilleure source de cartographie. Il s'arrêtait dès qu'il voyait quelqu'un et discutait avec lui. Le plus souvent, ça finissait autour d'un café. Certes, on n'avançait pas toujours très vite, mais que de découverte. Le nec plus ultra, c'est quand un pays entier est absent des cartes numériques.
Ça existe encore, ça ?
Mais oui, Sophie. Par exemple, quand je m'étais rendue à l'île Rodrigue, c'est la deuxième plus grande île qui appartient à Maurice. J'avais cassé les oreilles de mes amis de là-bas pour qu'ils m'achètent une carte SIM locale. Je voulais être connecté. Mais je n'avais pas prévu quelque chose. C'est que Google ne semble pas connaître l'île Rodrigue. À peine il vous indique de façon hautement brouillonne, avec des traits grossiers, quelques grands axes. Il les fait passer par l'océan à plus d'un endroit. Et parfois, c'est le nez en pur et simple, une sorte de retour au cadre du Moyen-Âge. Hein, le Ixum Dracones, ici sont les dragons. Cette inscription que l'on mettait naguère quand on ne savait pas remplir une carte. Un jour, je m'étais élancé sur une frêle barque de pêcheurs depuis l'île de Socotra vers le chapelet d'île entre Yémen et Somalie. J'ignorais alors l'existence même des cartes de Google. Mais je constate qu'aujourd'hui encore, ces îles, certaines grandes de dizaines de kilomètres, sont intégralement blanches à l'écran. Oui, il y a encore de l'espoir pour l'aventure.
En attendant, votre aventure entre Yémen et Somalie aurait pu se terminer sur un bateau de pirates. Vous ignoriez peut-être leur présence aussi. C'est malin.
Les pirates n'attaquent pas les pauvres barques de pêcheurs.
Allez, merci Joseph. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.
À tout bientôt.
C'est la fin des Carnets du Monde. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui encore. Le podcast est tout à votre disposition sur europe1.fr. Et la suite du programme s'écrit avec Nicolas Carreau qui m'a rejoint. Nicolas, qu'est-ce que vous nous avez préparé ?
Alors, événement aujourd'hui puisque je reçois John Grisham pendant une heure, l'auteur de La Firme, de l'affaire Pélican. J'ai plein de questions à lui poser.
Sans blague, eh ben nous on va écouter. Merci Nicolas, on vous retrouve dans quelques minutes. Merci, un grand merci à Julien Blanc qui a réalisé cette émission, à Marion Gauthier qui m'a aidé à la préparer. On vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 13h pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.